franceinter.fr.
Faut-il vraiment mentir au sujet du Père Noël ? Question posée aujourd'hui à la une de la science.
Tu l'as déjà vu, le Père Noël ?
Non, j'ai vu des messieurs seulement qui s'étaient déguisés en Père Noël.
Est-ce que tu as déjà vu le Père Noël ?
Oui, un jour. Avant, je l'avais vu, il se promenait dans la rue.
Comment il est ?
Il a une barbe blanche avec une capuche rouge, un manteau rouge, des bottes rouges, il est beau.
Et deux psychologues anglo-saxons qui publient une drôle de réflexion dans la revue The Lancet Psychiatrie sur ce qu'ils appellent le mensonge de trop. Selon leur théorie, mentir au sujet du Père Noël reste un mensonge et ça n'est pas une bonne idée pour la construction de l'enfant. Pour discuter de ce sujet, nous sommes avec la psychanalyste Claude Almos. Bonjour.
Bonjour.
Alors sur notre sollicitation, vous avez lu ce papier. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé, Claude Almos ?
J'en pense que c'est très bien de rappeler que mentir aux enfants est une chose grave, hein. On ment souvent aux enfants en pensant que c'est pour leur bien, on leur ment sur leur origine, on leur fait croire que leur beau-père c'est leur père, on leur ment sur la mort de leur grand-mère en disant qu'elle est partie en voyage, sur le fait qu'ils sont adoptés, on leur dit pas, etc. Ça c'est destructeur. Mais par contre, je pense que le Père Noël, c'est pas un mensonge. Le Père Noël c'est une invention poétique pour incarner l'amour des parents, c'est pas un mensonge et donc je pense que cet article mélange un certain nombre de choses.
Ouais. Si on devait faire la différence entre un mensonge et le Père Noël, comment on la ferait selon vous ?
Le mensonge, c'est la définition en français du mensonge, c'est une intention délibérée de tromper l'autre. C'est un truc qu'on dit pour tromper l'autre. Quand on dit à un enfant que son beau-père qui est là, le mari de sa mère, c'est son père géniteur, on lui ment, on sait très bien ce qu'on fait, et du coup, on lui vole son identité et son origine. Et c'est très grave pour sa construction. Quand on dit à l'enfant que le Père Noël existe, on n'a pas du tout l'intention de le tromper. C'est une façon d'incarner quelque chose qu'on n'arrive pas à lui dire autrement, en général pour lui fabriquer du merveilleux, du rêve, qui est aussi du rêve et du merveilleux pour les parents. Mais ça n'est pas du tout dans l'intention de le tromper.
Alors, quand on parcourt un peu le papier, on trouve cette phrase « Un enfant qui découvre tardivement que ses parents lui ont menti pendant des années peut subir un choc important et traumatisant. » Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, j'ai jamais vu d'enfants qui se sentent trahis parce qu'on leur avait parlé du Père Noël. Quand ils se sentent trahis, c'est parce que par ailleurs, on leur a dit que les petites filles naissaient dans les roses et les garçons dans les choux et qu'on leur avait tellement menti sur d'autres choses que le Père Noël, c'était une goutte de trop. Mais dans toute ma carrière, j'en ai pas rencontré qui, en tant que tel, pensent que le Père Noël les avait traumatisés. Ça, ouais. Sûrement pas.
Ce sera un cas d'école magnifique, en tout cas, Claude Almos, hein.
Pardon ?
Ce sera un sacré cas d'école.
Ah bah oui, mais enfin jusqu'à maintenant, personne ne l'a publié. Ça ne doit pas être par hasard quand même. Hein.
Donc mentir au sujet du Père Noël, en tout cas, ça n'est pas grave, vous le confirmez ?
Mais ça n'est pas un mensonge. Quand Éluard nous dit que la terre est bleue comme une orange, Paul Éluard n'est pas un menteur, c'est un poète. C'est une invention poétique. Le Père Noël, c'est une sorte d'invention poétique, même si bien sûr on sait qu'elle est utilisée commercialement. Dans tous les supermarchés, il y a des Pères Noël, etc. C'est une invention poétique. Et ça, pour incarner quelque chose qui est vrai, qui est l'amour des parents, l'envie qu'ils ont de faire plaisir à leurs enfants, cette espèce de sentiment très fort comme ça. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et c'est vrai que ça peut être important pour les choses abstraites de les expliquer aux enfants d'une façon plus concrète, de les incarner. Quand on travaille avec des enfants, on sait bien, par exemple, qu'on leur dit des fois, tu vois, c'est comme... Et puis on prend un exemple de quelque chose de très concret, parce que ça, c'est plus facile à comprendre pour eux. Et la meilleure preuve de ça, c'est que les enfants, quand ils n'ont plus besoin de ce support concret de quelque chose d'abstrait, ils laissent tomber. Voilà, ils cessent d'y croire.
Comment vous voyez un peu cette sortie de ces deux psychologues ? Est-ce que dans l'air du temps, il y a un nouveau questionnement autour du mensonge, autour du magique, du merveilleux ?
Je pense que ce qu'il y a surtout dans notre époque, c'est qu'on oublie de plus en plus ce qu'est l'enfance. Et on l'oublie et c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous sommes dans une psychiatrie qui ne tient plus compte de la construction des êtres humains, puisque la psychiatrie qui vient des États-Unis, la psychiatrie du DSM, c'est une psychiatrie qui prend les symptômes. Si vous, moi, Mathieu, avons peur de l'eau, c'est le même symptôme, donc on va nous donner une thérapie courte pour l'éradiquer, ou bien des médicaments, puisqu'on sait que cette psychiatrie-là est quand même faite au départ pour vendre des des médicaments. La psychiatrie classique et la psychanalyse s'occupaient de chaque personne comme d'un individu particulier, singulier. Donc on se demandait qui vous étiez pour avoir peur de l'eau, pourquoi vous en aviez peur, comment c'était construit, qui j'étais, etc. Et en fait, quand Freud découvre l'importance de l'enfance, il ne la découvre pas comme ça un beau matin en se lavant les dents, il la découvre parce qu'en travaillant avec des adultes, il se rend compte, en les laissant parler, que leurs problèmes prennent racine dans leur enfance. Et du coup, il se rend compte de l'importance considérable de l'enfance. À partir du moment où on n'écoute plus les gens un par un, on oublie l'importance de l'enfance. Et ça a des conséquences autrement plus graves que le Père Noël. Ça a des conséquences, par exemple, sur le fait qu'aujourd'hui, on assimile de plus en plus les maladies des enfants à celles des adultes. Par exemple, on va vous parler du burn-out d'un enfant de 6 ans, ce qui est totalement aberrant. Et c'est grave pour les enfants, c'est grave pour leurs parents, et bon, et c'est grave pour la clinique.
Mais Claude Almos, puisque vous avez lu justement cette étude, sur quoi s'appuient ces deux psychologues pour dire que finalement, parler du Père Noël et révéler la vérité aux enfants, ça n'est pas une bonne idée alors?
Mais parce qu'ils assimilent ça à un mensonge, c'est-à-dire qu'ils considèrent justement, parce qu'ils n'écoutent, ils n'ont pas la clinique, l'habitude de la clinique avec les enfants, ils considèrent que les choses qui ne sont pas vraies sont des mensonges. Les enfants ont besoin qu'on leur explique, à un moment donné, en thérapie on fait ça souvent, la différence par exemple entre ce qui est vrai pour de vrai et ce qui est vrai dans la tête. Il y a des choses qui sont vraies pour de vrai, ok. Il y en a d'autres qui sont seulement vrais dans la tête, parce qu'on les souhaiterait, par exemple. Hein, c'est le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Et un enfant peut vous raconter ça comme une réalité. Et c'est important. Je me souviens d'un petit garçon en thérapie. Je lui avais fini par lui dessiner deux boîtes, une rouge, une bleue. Le rouge, c'était les choses vraies pour de vrai. La bleue, c'était les choses qui étaient seulement vraies dans la tête. Et au bout d'un moment, je lui disais, bon, ce que tu me racontes là, on lui avait beaucoup menti à cet enfant. C'était un enfant qui avait été maltraité, on lui avait beaucoup menti. Donc il mentait comme on lui avait menti. Et donc je finissais par lui dire, on le met dans quelle boîte? C'est vrai pour de vrai, vraiment. Et voilà. Et mais ça ne veut pas dire que ce sont des mensonges. C'est l'imaginaire de l'enfant. Et quand on oublie l'enfance et on oublie la spécificité de l'enfance, on oublie cette particularité et cette richesse de l'imaginaire de l'enfant, qui est une richesse et en même temps à quoi il faut mettre des limites et de temps en temps, encore une fois, faire une différence avec la réalité. Mais ça n'a rien à voir avec le mensonge. Et l'enfant, d'ailleurs, ne s'y trompe pas.
Une dernière question, Claude Almos. Comment il faut réagir face à un enfant qui arrive de l'école et qui vous dit « le Père Noël n'existe pas » Est-ce qu'il faut protéger le mythe?
Mais bien sûr que non. Un enfant qui vous dit ça, faut lui dire, ah bon, oui, pourquoi tu penses ça? Avant, tu croyais qu'il existait, maintenant, tu penses pourquoi? En général, ça se passe parce qu'un copain lui a dit, et c'est important, c'est les relations avec les autres, que bah, finalement, c'était pas vrai. Et on peut le féliciter parce qu'il est en train de grandir. On lui disait, tu vois, quand tu étais petit, tu avais besoin de croire au Père Noël, et ben maintenant, tu es devenu grand, et tu as plus besoin d'y croire, et c'est formidable, et joyeux Noël.
Ah ben, c'est ce qu'on vous souhaite également, Claude Almos. Bonne fête de fin d'année à vous. Et merci pour votre éclairage. On peut donner le titre de votre dernier ouvrage, peut-être, Claude Almos?
Oui, c'est « Savoir-être, une psychanalyse à l'écoute des êtres et de la société ».
Publié chez
Fayard.
Merci beaucoup à vous et bonne fête. Et Axel, à très bientôt.
À lundi, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un poisson qui n'a que faire de la pollution urbaine. Darwin disait que la sélection naturelle était d'autant plus rapide que la pression environnementale était forte sur une espèce. Voici un cas d'école avec les poissons combattants de la côte est des États-Unis. Les chercheurs ont séquencé l'ADN de 400 spécimens différents vivant en zone polluée ou non et ont remarqué une diversité génétique grandissante et une adaptation très rapide des poissons exposés aux polluants. Certains spécimens sont 8000 fois plus résistants à la pollution que d'autres, preuve d'une évolution très rapide avec l'apparition de mutations protectrices chez certains groupes. Un coup de chance dû au hasard qui n'est malheureusement pas valable pour toutes les espèces de la région. On connaissait les lames de graphène, les tubes de graphène, et bien voici maintenant l'eau de graphène. Le graphène est la star des matériaux et pourtant cette couche unique d'atomes de carbone reste encore difficile à isoler. Et pour contourner le problème, des chercheurs français ont imaginé une stratégie de production par voie liquide. L'idée concrétisée ici était d'intercaler des ions potassium en solution dans une structure de graphite pour la dissoudre et obtenir ces fameuses couches uniques. L'eau de graphène fraîchement inventée est présentée comme la première formulation de graphène en couche unique stable à l'air et facilement manipulable. Un pas pour l'industrie et pour les coûts d'utilisation du graphène. Et puis on termine avec la photo d'un plumage de dinosaure. Des chercheurs canadiens publient dans la revue Cells l'étude inédite d'une queue de Coelurosaur parfaitement préservée préservé dans de l'ambre. Le fossile, constitué des 8 dernières vertèbres de la queue de l'animal, permet pour la première fois l'étude fine en 3 dimensions de la couverture de fines plumes qui recouvrent l'extrémité de la queue. Brune sur le dessus, blanche sur le dessous. Cette forme de plumage primitif est une aubaine pour les scientifiques qui comptent essayer de percer l'ambre pour étudier le microcosme emprisonné entre les plumes. Une photo à voir sur le Facebook de La Tête au Carré.